Voilà, je veux remercier le groupe de louanges. C'est vraiment une bénédiction d'avoir un groupe de louanges. Et je veux remercier Dieu pour les frères et sœurs qui sont dans la louange. Et remercier aussi Dieu pour Dominique qui a cette responsabilité au niveau de la louange. Nous avons chanté de beaux chants. Dieu est fidèle et il ne change pas. Amen. Jésus, sois le centre. Sois le centre. Et c'est vrai que je ne sais pas si vous remarquez, des fois on a des expressions. On dit le soleil se lève et le soleil se couche. Souvent on dit ça alors que le soleil, on sait tout à fait qu'il brille en permanence. Et des fois on est centré sur notre vie comme ça. On croit que c'est le soleil qui tourne autour de nous, mais non, c'est nous qui tournons autour du soleil et on veut dire Jésus soit le centre. C'est vrai qu'on a souvent tendance à se centrer sur soi. Je voudrais continuer un petit peu sur ces expressions. C'est vrai que je voudrais vous parler ce matin de la foi et qu'on puisse se questionner sur la foi. Mais des fois, on a certaines expressions. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la foi, mais on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est déjà d'avoir la foi ? Avoir la foi. Déjà, utiliser le verbe avoir, c'est un peu particulier. On peut dire j'ai un portable. J'ai une maison, j'ai une belle voiture, j'ai tel équipement, j'ai ceci et cela, mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire j'ai la foi. J'ai la foi. Qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi ? Est-ce que c'est quelque chose que des informations qu'on stocke quelque part et puis à un moment donné on s'y réfère ? Est-ce que la foi c'est de croire qu'il y a un Dieu ? Et c'est vrai que dans notre société actuelle, qui est très basée sur la consommation, on pourrait faire de la foi quelque chose comme un produit. Et je veux vous parler de cela ce matin, et je crois aussi que Jésus veut nous encourager à travers la foi, et il veut nous donner peut-être un regard nouveau sur la foi. J'aimerais lire avec vous un court passage, dans Luc, au chapitre 17, du verset 5 à 6. Alors, Luc, chapitre 17, verset 5 à 6. Alors, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « La foi, si vous en aviez comme un grain de moutarde, vous diriez au grand arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéira. » Avant d'expliquer ces versets de Luc, j'aimerais faire une toute petite parenthèse. Jésus nous enseigne à certains moments d'avoir la foi pour déplacer les montagnes. Donc, c'est dans Matthieu. Donc, dans Matthieu, il y a un contexte de délivrance. C'est-à-dire que les apôtres n'ont pas pu délivrer un enfant qui était possédé. Et Jésus va les enseigner en disant qu'ils n'ont pas pris position dans la foi. Par contre, là, on est dans le verset de Luc, on est dans quelque chose de différent. C'est un autre contexte. Donc j'insiste bien là-dessus. Le contexte de Luc, c'est plus une demande des disciples, des apôtres, qui demandent quelque chose de quantitatif. Augmente-nous la foi. Donc, merci de prendre ce détail, c'est-à-dire que ce n'est pas le même enseignement que dans Matthieu. Alors, augmente-nous la foi. Dans Luc, chapitre 17, versets 5 à 6. Donc là, les apôtres posent cette question à Jésus, augmente-nous la foi. C'est une requête. Et juste avant, Jésus leur a enseigné quelques principes sur le règne de Dieu. Et cela est un petit peu dérangeant et différent de ce qu'ils ont connu. Jésus les avait enseignés juste avant en disant, écoutez, si quelqu'un vous vient vous faire des ennuis, eh bien, il faut lui pardonner. Et si cette même personne vous fait des ennuis sept fois dans la journée, eh bien, à chaque fois, il faut lui pardonner. Alors, les disciples, quelque part, ils se disent, pour la même personne, ça fait beaucoup. Sept fois dans la même journée, il nous embête, il revient sept fois, il faut lui pardonner, bon. Il y a un problème quelque part, et si on n'arrive pas à pardonner, c'est peut-être parce qu'on a une problématique de foi. Donc, ils se disent, on n'a pas assez la foi. Et si on voudrait mettre ce verset dans le contexte d'aujourd'hui, on pourrait se dire qu'en bon syndicaliste, les apôtres se sont regroupés et ils vont auprès de Jésus en disant « on veut une augmentation de foi ». Non pas de pain, ni de salaire, mais une augmentation de foi. Quelque part, cela paraît bien. « Augmente-nous la foi ». C'est quelque chose qui paraît bien. On aimerait avoir plus la foi. C'est peut-être des choses que vous avez demandées. Moi, je sais que je l'ai demandé jusqu'au jour où j'ai vu le verset d'une façon un peu différente. Et Jésus va donner une réponse très étrange. Je ne sais pas si vous ne la trouvez pas étrange, la réponse de Jésus. Il dit, si vous avez la foi grande comme un grain de moutarde. Alors, le grain de moutarde, c'était la définition de ce qu'il y avait de plus petit. Hein, ce qui veut dire, vous ne l'avez pas. Eh bien, vous diriez à cet arbre, déracine-toi d'ici et va te planter dans la mer. La Bible nous enseigne que Jésus a fait de grandes choses. Il a fait des tas de miracles. Il a prêché des choses incroyables. Il a fait de grandes choses, mais il a toujours refusé de faire certaines choses. Il a toujours refusé de faire des choses inutiles. C'est-à-dire faire du surnaturel pour faire du surnaturel. Un peu du style de ce que Satan a proposé à Jésus au moment de la tentation, changer des pierres en pain. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur refuse. Multiplier les pains, oui, il veut bien, mais transformer des pierres en pain, c'est une sorte de surnaturel, un type de surnaturel qu'il ne veut pas. Et pourquoi ? Parce que le Christ ne voulait pas qu'on le prenne pour un magicien, un sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui attire, qui fait des exploits seulement pour une chose, attirer la gloire sur lui. Et Jésus nous dit que si nous avions la foi grande comme cela, eh bien nous ferions des choses inutiles. C'est ce qu'il dit aux apôtres. À savoir, arracher un arbre et le planter dans la mer, c'est la chose la plus inutile qu'il puisse y avoir. Mettre un arbre dans la mer, c'est quelque chose de vraiment inutile. Or, Jésus a toujours fait des choses concrètes. Il a fait du surnaturel uniquement pour transformer le naturel, mais positivement, pour structurer notre foi, pour amener les gens à la guérison. Tous les miracles de Jésus sont accompagnés d'un enseignement. Et là, en fin de compte, il dit aux apôtres, vous me demandez une augmentation de foi, mais si vous aviez la foi comme ça, qu'est-ce que vous feriez ? Bien, des trucs inutiles. Bon, excusez-moi du terme, je vais l'utiliser dans le dico, vous feriez des trucs débiles. Des trucs qui ne servent à rien. Des trucs qui ne servent à rien. Et pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les apôtres, à ce moment-là, sont en train de rechercher non pas la foi en Jésus, mais une puissance. Les apôtres sont en train de rechercher une puissance non pas pour les autres, mais pour eux-mêmes. Ça aurait été une puissance pour les autres, ils auraient demandé, à un figuier, un abricotier, d'aller se planter dans des zones désertiques, là où les gens meurent de faim. Non, en fin de compte, les apôtres cherchent une puissance. La toute-puissance de mettre un arbre dans la mer, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose ? Non. Alors, on est peut-être un peu surpris, on se dit, mince, ce texte-là, il y a longtemps que je le lis, je le vois pas comme ça, mais je crois que Jésus aussi, il donne des choses à un moment donné, il est là aussi pour nous éclairer sur certaines choses, ou parler à un moment donné et changer nos catégories. On pourrait se dire, en lisant ces versets, d'une façon première, on va faire des choses hyper puissantes. Alors quelqu'un va me dire, oui, Jésus a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Dans Jean, chapitre 14, verset 12. Ce n'est pas des choses plus puissantes, c'est Jésus qui est puissant, c'est lui qui donne tel ou tel miracle, mais des choses plus grandes. C'est-à-dire qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas la presse, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas une transmission que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de plus grand dans la puissance. Il n'y a que Dieu qui est puissant, il a toujours été, c'est Jésus. Mais plus grande dans la propagation de l'Évangile. Et on le voit bien aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de convertis sur la planète, plus qu'au temps de Jésus. Donc on pourrait se dire, on va faire des choses hyper puissantes. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas ce type de foi-là dont nous avons besoin. Ça, c'est le type de foi des super-héros Il y en a beaucoup au cinéma actuellement. Il y a beaucoup de séries sur les super-pouvoirs, super-héros. Et puis, on est dans une période, là, aujourd'hui, il y en a certains qui fêtent Halloween. Donc, il y a toujours ce rapport à chercher quelque chose de puissant. Vous savez, l'occulte, ce n'est pas uniquement une recherche de quelque chose de négatif. L'occulte, c'est quelque chose, c'est un goût pour la puissance. Quelque chose de puissant. Et Jésus nous dit que le type de foi dont nous avons besoin n'est pas de cette puissance, mais c'est d'un autre type. Et je voudrais encourager ce matin les gens qui se disent « Moi, je n'ai pas beaucoup de foi, je me sens petit dans ma foi. » Dieu nous dit que, comme avec Gédéon, va avec la foi que tu as. Hein, on ne cherche pas à avoir une grande foi, une petite foi. Va avec ce que tu as. Va avec ta confiance. Alors Jésus déplace la représentation des apôtres. Les apôtres se sont représentés une certaine chose, et leur problématique, c'est de considérer la foi comme un produit. C'est de considérer la foi comme quelque chose qu'on peut mesurer ou qu'on peut posséder. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas plus de foi ou une foi puissante, mais c'est tout simplement, et écoutez-le, une foi pure, simple et intègre. Hein ? La foi que tu as. Est-ce que vous croyez ça ? Hein, c'est pas plus de foi, une foi puissante, mais avec ce que tu as. Une foi pure, simple et intègre. La foi n'est pas là pour nous donner une autorité puissante, mais qu'on soit de humbles serviteurs. Vous savez, cette question, augmente-nous la foi, c'est du même style que ce que les apôtres ont demandé un moment à Jésus. Seigneur, qui est le plus grand parmi nous ? Alors ça, c'est des préoccupations de l'école maternelle, c'est des préoccupations de petits garçons qui font des concours pour savoir qui jette la pierre la plus loin, c'est des préoccupations de petites filles qui veulent savoir si je suis la plus belle, c'est des préoccupations qui sont vraiment charnelles, très charnelles, mais qui ont l'air spirituelles. Augmente-nous la foi, ça a l'air spirituel. Mais Jésus veut nous gratifier d'une autre foi. Alors Jésus nous dit que la foi délirante, c'est cela. La foi délirante, c'est ceux qui pensent que, eh bien, on peut accumuler de la foi. On peut capitaliser de la foi. Comme une action, comme quelque chose au niveau des finances, comme de l'argent sur un compte. La foi de Mammon, bien sûr, elle se capitalise. Hein, la foi de Mammon, la foi dans les biens matériels, ça se capitalise. Mais là, il n'est pas question d'une augmentation. Et sur ce point, Dieu reste binaire, linéaire. Il y a deux choix. Soit on croit, soit on ne croit pas. Je crois un peu, c'est mort. Je ne crois pas. Si je vous dis j'ai un peu confiance, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas confiance. Donc la foi, c'est ça. Je crois ou je ne crois pas. Il n'y a pas d'état intermédiaire. Hein, vous savez qu'en informatique, les composants se communiquent entre eux avec deux états. Il y a l'état 0 ou l'état 1. Et l'état entre les deux, ça n'existe pas. Il ne comprend pas. Et pour la foi, c'est je crois ou je ne crois pas. Alors Jésus leur dit, augmente-nous notre foi. Votre demande est délirante. Et je vous donne une représentation aussi qui fait un effet miroir, c'est-à-dire qu'il donne une représentation qui est de l'ordre de leurs questions. Alors, vous vous dites ce matin, alors, qu'est-ce que je fais ? Comment je peux, est-ce que je peux plus prier en demandant notre foi ? Non, c'est la prière qu'on peut faire, c'est pas Seigneur, je veux avoir plus de confiance, mais Seigneur, je veux avoir confiance. Seigneur, je veux avoir confiance, pas plus confiance, mais je veux avoir confiance. Est-ce que vous pensez que Dieu a voulu un peu sauver le monde ? Dieu a un peu aimé le monde, alors il a envoyé un fils afin de sauver une partie du monde et qu'il soit globalement sauvé, afin qu'ils aient la vie relativement éternelle. Dieu est entier. Est-ce que, Gevor, tu peux projeter ce verset, Jean ? Voilà. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Il y a vraiment... Dieu est entier. On va lire ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on a la foi, mais on doit vivre sa foi, on vit sa foi. On entretient sa confiance avec Dieu. Et on vit une histoire d'amour, ce qu'on vient de lire. Dieu a tant aimé le monde. Il faut vraiment nous aimer face à notre incrédulité. Il faut vraiment que Dieu nous aime pour donner son Fils à la croix. Donc, on vit sa confiance avec Dieu, on l'entretient. Et on vit une vie d'amour, une histoire d'amour, une vie en relation avec Dieu. Non pas la foi qui dit « il y a un Dieu qui existe », mais la foi qui dit « je suis réconcilié avec mon Dieu et je peux rentrer en communication, en relation avec lui ». Alors tu as le droit d'y croire, tu as le droit de ne pas y croire, mais c'est soit l'un, soit l'autre. Alors nous avons toujours, je vous ai apporté ces questions autour de la foi, parce qu'on a souvent créé des échelles de mesure. Des fois, on ne s'en aperçoit même plus, mais on crée des échelles de mesure, un peu comme une marguerite. Je crois un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Et on crée des échelles de mesure. Et Dieu veut nous dire qu'il te prend avec la confiance que tu as. On doit l'entretenir, mais il te prend avec la confiance que tu as. J'aimerais aussi prendre un autre point avec vous. Donc on établit des échelles de mesure dans la foi, et on peut aussi établir des catégories de personnes dans la foi. On peut dire cet homme, il a beaucoup de foi. On peut établir des catégories de foi par rapport aux personnes. Alors j'aimerais qu'on puisse lire dans Marc, au chapitre 16, à partir du verset 14. C'est un verset que j'avais déjà pris une fois. Alors Marc, chapitre 16, verset 14. Donc ça, c'est Jésus qui est apparu aux 12, aux 11. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alors, en lisant ce texte, on peut se dire, au premier abord, eh bien, il va y avoir d'un côté les apôtres et de l'autre côté des gens qui vont se convertir. Et on pourrait se dire qu'il y a deux catégories de croyants. Mais quand on relit le texte, eh bien, ce n'est pas ça que le texte veut nous dire. On pourrait se dire qu'il y a deux catégories de croyants, c'est-à-dire d'un côté les super apôtres, les guerriers de la foi, et de l'autre côté les gens qui, bien, qui admirent les apôtres et qui reconnaissent eh bien, que, ben, en fin de compte, les apôtres, ils ont quelque chose de différent par rapport aux autres. En fin de compte, le texte ne nous dit pas ça, il nous dit que ceux qui croiront. Jésus ne nous demande pas d'être des chrétiens de première catégorie qui vont montrer la gloire de Dieu et puis les autres personnes vont les admirer. Jésus nous dit de croire, ceux qui croiront. Ceux qui croiront feront ces œuvres-là. Et ça, c'est à la portée de chaque croyant. Ceux qui croiront. Il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de... Bien sûr, il y a des fonctions, il y a des personnes qui sont anciens, il y a des personnes qui sont diacres, il y a toute une des fonctions, il y a toute une organisation. Mais les frères, les uns et les autres, ce qu'on veut, c'est que le corps de Christ prenne pleinement sa place. Ça, c'est vraiment le cœur des frères, c'est que chacun prenne sa place, que eh bien, le corps de Christ prenne sa place. Donc il n'y a pas de privilège. Il n'y a pas de privilège. Il y a des fonctions, mais il n'y a pas de privilège. Je veux vraiment que vous puissiez prendre votre place dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y a pas une grande foi, une super foi, un super ceci, cela. Viens avec la foi que tu as, comme Dieu a dit à Gédéon. Et il n'y a pas de privilège. Avez-vous noté ce que Jésus a dit aux apôtres? Vous ne croyez pas. C'est-à-dire que les apôtres, à un moment, ils ne croyaient pas. Et si vous lisez quelques versets plus tard, il est marqué « Ceux qui ne croiront pas seront condamnés ». Les apôtres, eh bien, c'est ceux qui ont été choisis quelque part pour aller vers les autres et puis pour annoncer la foi. Et Jésus leur dit « Vous ne croyez pas ». Alors, quelque part, ils ne sont pas mieux que les païens qui ne croient pas. À ce moment-là, les apôtres sont du même ordre que les païens qui ne croient pas. En fin de compte, ils n'ont pas cru en Jésus, ils n'ont pas cru qu'il était celui qui pouvait être le vivant parmi les morts. Les apôtres l'ont peut-être conçu intellectuellement, mais ils n'ont pas cru. Alors voici la définition d'un croyant. Ce n'est pas quelqu'un qui croit que Dieu existe, mais c'est quelqu'un qui est revêtu de cette puissance et qui permet de toucher, même s'il prend du poison, eh bien, il ne lui arrive aucun mal. Il peut imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il peut chasser des démons en son nom. Voilà un croyant. Je ne vais pas vous faire une théologie ou quoi que ce soit. C'est marqué, c'est noir sur blanc. Les apôtres, juste avant, ils se font taxer d'incrédules. Et ils ne sont pas mieux que n'importe quel païen. Et en fin de compte, Jésus-Christ dit que ceux qui manifestent la gloire de Dieu, c'est ces gens-là, ceux qui croiront. Et d'époque en époque, on a toujours voulu créer des catégories. C'est un petit peu le mal du siècle, on a toujours voulu créer des catégories. Des saints de ceci, des héros de la foi de cela, des ministères de ceci et cela. Et alors que Jésus, lui, demande quelque chose de tout simple, il veut des croyants, qui croit uniquement à ces critères-là, hein, qu'il croit seulement en lui. Il est marqué dans l'Évangile, hein, « Si Jésus revient, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc, ce que veut Jésus, c'est des gens qui croient que Dieu est puissant, qui se laissent envahir de la foi que Dieu donne, qui se laissent envahir du Saint-Esprit, non pas pour manifester leur confession de foi, non pas pour montrer leur capacité à être de bons chrétiens, mais quelque chose qui permet de manifester la gloire de Dieu. Souvent, notre vie manifeste quoi ? Qu'est-ce qu'elle manifeste, notre vie ? Hein ? Elle manifeste qu'on est des gens polis, qu'on est des gens bien élevés, qu'on est des gens sociables, qu'on est des gens généreux, de bonne fréquentation, nous sommes des gens bien. Mais avons-nous besoin du Saint-Esprit pour être ainsi ? Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit pour être ainsi ? Il y a des structures à l'extérieur, des gens qui font de la reconversion, des personnes qui sont sorties de prison, qui avaient une vie de débauche, et qui les remettent dans le droit chemin pour pouvoir vivre dans cette société avec une bonne mentalité, avec de bons principes, ils deviennent polis. Ils n'ont pas besoin de l'Esprit de Dieu pour cela. Ils n'ont pas besoin de l'Esprit de Dieu. Bien sûr, je ne vous demande pas d'être infect. On ne va pas être infect les uns les autres. J'aime beaucoup Jean-Baptiste dans le désert. Je ne sais pas si aujourd'hui on aurait été voir Jean-Baptiste. Hein. Il était habillé avec des peaux de chameau. Oui, c'est ça, il mangeait des sauterelles, du miel. Convertissez-vous, race de vipères. Donc, il était, je ne sais pas s'il était vraiment bien social, hein. Mais il était rempli de cette annonce de l'Évangile, de l'annonce du Sauveur. Donc, nous n'avons pas besoin de l'Esprit de Dieu pour être des gens bien comme il faut. Ces paroles sont peut-être un peu dérangeantes. Je pense qu'elles ont été dérangeantes pour les apôtres. Mais Jésus, le Seigneur, ne veut pas qu'on fasse de la dissertation sur lui. J'ai un livre à la maison du début du 1950. C'est « L'Église et les malades ». Et dans cette étude, il est dit que les premiers chrétiens eh bien, en fin de compte, ce n'étaient pas des gens qui avaient de l'éloquence. Hein, il n'y avait pas de rhétorique, ils avaient du mal à exprimer leur foi. Mais par contre, ce qu'ils manifestaient, c'était la guérison des malades et la délivrance des gens. Et ça, l'Évangile a prospéré par rapport à ça, par rapport à cette action, c'est-à-dire qu'il y avait une parole, mais elle était accomplie par de la manifestation de Dieu. Alors, un tout petit point pour terminer, c'est, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les apôtres qui, à un moment donné, ils ne croient pas que Jésus est ressuscité, et puis le moment où ils se sont mis en avant pour aller prêcher l'Évangile, pour aller faire des miracles, chasser les esprits mauvais, guérir des malades. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, un épisode qui n'est pas nommé dans l'Évangile de Marc, mais c'est la Pentecôte. Sans la présence vivante de Dieu, les apôtres ne peuvent rien faire. Hein, Jésus était mort, ils étaient là, ils étaient déboussolés. Sans la présence de Jésus, ils ne pouvaient rien faire. Tant qu'ils étaient avec Jésus, ils croyaient, ils faisaient des petites bêtises, et puis bon, Jésus les remettait un petit peu dans le droit chemin. Ils essayaient, ils allaient de l'avant. Mais là, Jésus est mort, et où la présence de Dieu? Et à ce moment-là, où ils doutent de la présence de Dieu, c'est là que les apôtres deviennent comme le pire des païens. Ils ont perdu cette connexion avec Dieu. Et c'est embêtant parce que nous savons que Jésus-Christ n'est pas resté physiquement sur terre. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour retrouver cette confiance, cette connexion avec le Sauveur? Eh bien, Dieu a décidé tout simplement de continuer à être présent, au-delà de la présence physique de Jésus-Christ. Amen. Dieu a continué, Dieu veut continuer à être présent par le Saint-Esprit. Alors, la leçon qu'on peut tirer de ça, la leçon, c'est que nous pouvons être les gens les mieux du monde. Nous pouvons avoir été choisis. Nous avons pu être recrutés pour telle ou telle chose. Nous avons peut-être tout bien fait pendant 3 ans. Nous avons peut-être été proches du Seigneur. Nous avons peut-être tout abandonné pour le suivre. Et même si, et même si, et même si, nous pouvons être le pire des non-croyants, prêts à être condamnés si, quelque part, on a perdu cette connexion avec le Saint-Esprit. Oui, nous pouvons l'être si nous avons perdu cette connexion. La foi, c'est ne pas croire qu'il y a un Dieu qui existe, mais la foi, c'est d'être en relation avec lui. Je veux vous le dire, non pas d'une façon, avec la morale. C'est trop facile. On est tous au même niveau et je crois qu'on a besoin de vivre pleinement que Jésus-Christ est présent. Amen. Amen. Dieu est présent et nous avons besoin d'être en communication avec eux, avec lui. Nous avons besoin d'être revêtus de cette grâce, de cette bénédiction et je crois que votre cœur aussi aspire à manifester la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que votre cœur aspire à ça, manifester la gloire de Dieu? Non pas rechercher une puissance pour vous-même. Je sais que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit. Et même si vous l'avez peut-être compris, vous allez vous repentir de certaines choses. Mais qu'on puisse manifester la gloire de Dieu. Que l'Évangile soit annoncé, mais qu'il y ait aussi des actes de guérison, de bénédiction. Voilà ce que Dieu attend. Ceux qui croiront, ils feront telle ou telle chose. Ce n'est pas avec notre intelligence qu'on peut faire ça, ni avec notre force, ni avec nos qualités, mais c'est avec la grâce de Dieu. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que nous sommes de gentils croyants? Est-ce que nous sommes de bons disciples qui essayent d'améliorer telle ou telle chose dans notre vie? Ou alors sommes-nous de ceux qui veulent vivre la dimension que Jésus nous appelle à vivre, la manifestation de la gloire de Dieu. Amen.
Amen.
Amen. J'appellerai le groupe de louanges. J'aimerais qu'on passe... Je ne sais pas si votre ventre crie famine, ça va? Parce que vu qu'on a avancé d'une heure. J'aimerais qu'on passe un temps dans la présence de Dieu. Et je crois à... je crois, la manifestation du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est qui ? C'est nous, c'est vous. Et j'aimerais ce matin, non pas qu'on puisse rechercher des choses spectaculaires ou quoi que ce soit, mais vivre tout simplement ce que Dieu demande dans sa parole. On peut faire la musique doucement. Et je voudrais faire un appel. On peut se tenir dans le recueillement. Et comme nous, je ne sais pas si je l'ai bien prêché, mais ce que je veux, c'est j'ai confiance en Jésus-Christ. Des fois, même dans des choses qu'on annonce, on peut être maladroit. Et je demande pardon, Seigneur, si j'ai été maladroit pour telle ou telle chose. Mais que ton esprit ne soit pas freiné à intervenir ce matin dans le cœur d'un frère, d'une sœur ou d'un ami qui est là pour la première fois. Un ami qui peut se dire, moi je ne me suis jamais senti aimé. Et nous avons lu ce texte qui dit que Dieu a tant aimé le monde. Quiconque vient à lui. Il n'y a pas de critère, il y a quoi que ce soit, mais celui qui se sent vraiment le plus désespéré peut venir à Jésus-Christ. Ce matin, mon cœur, c'est que vraiment que le corps de Christ puisse se manifester. Si ce matin, quelqu'un se sent interpellé pour dire, j'ai compris que tu m'appelles, Seigneur, avec la foi que j'ai. Peut-être que quelqu'un, ce matin, a compris qu'il n'a pas besoin de rechercher quelque chose de tout puissant, mais il a seulement besoin d'entretenir sa confiance avec Dieu. Si une personne a compris cela, elle peut se lever à sa place, comme un signe devant le Seigneur en disant, Seigneur, je veux vraiment entretenir cette confiance avec toi. Je sais que je ne suis pas digne de toi et je n'ai pas à rechercher des choses hyper puissantes. J'ai seulement à m'approcher avec ce que je suis. Peut-être que ce matin, quelqu'un a besoin de guérison. Nous parlons de la foi, mais il y a la foi que Dieu donne pour guérir de telle ou telle chose. Guérir de dépendance, guérir d'une maladie physique. Et peut-être que cette personne, veut une guérison pour la gloire de Dieu, avec la foi que tu as. Cette personne peut se mettre aussi debout, à sa place, comme une manifestation auprès de Dieu, en disant, Seigneur, avec la foi que j'ai, je te prie de me guérir là où j'ai mes blessures, de me guérir dans mon état, dans mon état physique. Peut-être aussi qu'une personne se sent interpellée en disant, moi, je veux que Dieu me fortifie dans tout ce que je suis. Je veux que les malades soient guéris. Je veux que les esprits soient chassés dans le nom de Jésus. Peut-être qu'une personne veut se mettre à l'œuvre pour Dieu de cette façon. Peut-être qu'il y a comme un appel sur la vie de certains et tu veux te manifester parce que tu crois, tu as la confiance en Dieu. Non pas que tu cherches quelque chose de super, hyper spirituel, mais quelque chose de simple pour que la manifestation de Dieu se manifeste. Tu peux te lever à ta place si tu te sens interpellé par la prière pour les malades, pour les actes de guérison. Et peut-être que quelqu'un ce matin se dit, je ne suis pas forcément un croyant selon le cœur de Dieu. Tu peux ouvrir tout simplement ton cœur ce matin. Nous pourrons prier dans ces instants et je veux remercier le Seigneur parce qu'il veut donner à chacun d'aller de l'avant. Et je demanderais qu'on puisse prier et que l'Église de Christ, qui veut se lever là à ce moment pour prier pour les uns et pour les autres, non pas en imposant les mains, mais seulement avec la foi que tu as, non pas une foi super puissante, mais quelque chose que tu as reçu. Que l'Église puisse se lever, que le corps de Christ ne fasse qu'un et qu'on puisse prier en ce moment pour ses besoins, pour la guérison des malades, pour ces choses que Dieu nous demande de manifester avec la foi que nous avons. Alléluia.